Le journal Ramambaï. Nouveau plaidoyer en faveur de l'aide humanitaire à la RDC. Ce plaidoyer est mené par la Caritas Développement à travers un film sur la crise humanitaire dans le pays. La commission électorale indépendante a commencé à cheminer du matériel électoral dans les coins les plus reculés de la province du Sud Kivu. Une vingtaine de kits sont déjà arrivés dans la localité de Nzovu. Plusieurs pharmaciens et médecins du monde réunis depuis hier à Brazzaville pour le 7e forum pharmaceutique international. Leur mission, réfléchir sur les pandémies comme le sida. Bonjour, nouveau plaidoyer en faveur de l'aide humanitaire pour la République démocratique du Congo. Ce plaidoyer est mené par Caritas Développement RDC à travers un film sur la crise humanitaire dans le pays. Caritas a présenté ce film hier jeudi à la presse et aux missions diplomatiques. Ce documentaire de 50 minutes aborde le pillage des ressources, les viols, le rôle de la communauté internationale et la transition congolaise. Objectif du film, amener les pays riches à contribuer suffisamment pour résoudre les problèmes humanitaires en RDC. Mais pourquoi cet autre plaidoyer alors que la communauté internationale a déjà lancé en début de cette année le plan d'action 2006 pour récolter des fonds à même de résoudre cette crise? Abbé Léonard Santedi, secrétaire national de la conférence épiscopale de la RDC, explique au micro de Donna Madimba.
Les élections, c'est la voie obligée pour aller à un état de droit. Mais en dehors de cela, il ne faut pas oublier le côté humanitaire. Et après les élections, toutes les questions n'auront pas de réponse comme des réponses miracles. Alors, il y a là donc un appel pressant à la communauté internationale pour se pencher sur cette question de la crise humanitaire au Congo. Voilà l'objectif principal de ce DVD.
Notez que sur environ 700 millions de dollars nécessaires pour une aide humanitaire d'urgence en RDC, les bailleurs de fonds n'ont jusqu'à présent donné que 20% du montant cité. Selon les Nations Unies, la crise humanitaire en RDC tue 1200 Congolais chaque jour. Le Fonds monétaire international ne suspend pas son aide à la République démocratique du Congo, mais il s'agit d'une mise au point qui laisse au gouvernement congolais. Cette assurance a été donnée lors d'un point de presse hier d'une mission du FMI. Cette mission, qui s'achève au bout de 5 jours en RDC, avait pour objectif de discuter du programme relais de consolidation qui pourra couvrir le reste de l'exercice 2006. Elle a recommandé notamment au gouvernement d'augmenter les recettes, assurer la paix des fonctionnaires et limiter les dépenses. Cyril Briançon, représentant de la mission du département Afrique du FMI, est au micro de Mireille Boukassa.
La question de suspension ne se pose pas. C'est une simplement, bon, il y a des moments où il est bon de faire le point sur la situation et de voir comment on peut avancer. Nous espérons, nous, de notre côté, qu'on puisse avancer très rapidement. Bien sûr, il y a un certain nombre de choses que les autorités ont besoin de faire, c'est de s'assurer que les mesures qui devaient être prises sont bien prises avant que nous allions à notre conseil d'administration pour nous assurer que la situation a été rétablie et que le niveau des recettes de l'État couvre les dépenses. Donc ça, c'est sur ce point-là que nous souhaitons avoir avant de pouvoir véritablement dire que nous avons conclu les discussions. Et d'autre part, nous continuons à apporter l'assistance technique. Nous l'apportons au niveau de la Banque centrale. Nous avons plusieurs experts à long terme qui travaillent et qui continuent de travailler à la Banque centrale. Donc, nous continuons comme nous le faisions par le passé. Il n'y a pas du tout de changement de ce côté-là.
Un processus électoral au Sud Kivu, la commission électorale indépendante a commencé l'acheminement du matériel électoral dans les coins les plus reculés de la province. Mercredi, elle a déployé des urnes, des isoloirs et du matériel de bureau à Nzovu, une localité du territoire de Shabunda à environ 150 km de Bukavu. Au total, 23 kits ont été acheminés dans cette localité qui n'est pas accessible par route et qui est entouré d'une forêt. Massoudi Manzambi de la CEI Bukavu explique au micro d'Adolphe Ngoy.
C'est maintenant la 8e étape après Uvira, Lougouchoua, Kitutu et Fizi aussi. Chaque fois que la population enthousiasmée voit l'hélicoptère de la Monique descend, voir ce qu'il y a dedans. Et dès qu'il y a du matériel électoral, ils le font d'ailleurs avec joie. Ils prennent le matériel, le mettent sur la tête. Et avec cela, nous pouvons facilement atteindre les différents coins de notre destination.
En Ituri, le paludisme fait rage à Mahagi, localité située à 200 km au nord de Bunia. La plupart des victimes sont des enfants de moins de 5 ans. Le centre de santé de référence de Mahagi est envahi chaque jour par plusieurs dizaines de personnes frappés par cette maladie. Pourtant, ce centre manque de staff et d'équipement pour soigner tous ces malades. Jean-Claude Bissiliab.
Selon l'infirmière responsable du centre de santé de référence de Mahagui, le paludisme enregistre à lui seul 50 malades par jour. Les 47 lits que compte ce centre de santé sont insuffisants pour héberger ce grand nombre de malades de paludisme admis tous les jours à l'hôpital après consultation. Certains malades amènent leur nappe de la maison et couchent dans des conditions insupportables pourvu qu'ils soient proches des médecins. Toujours selon l'infirmière responsable, beaucoup de patients meurent. La plupart sont des enfants de moins de 5 ans. Les centres de santé éprouvent également des ruptures d'approvisionnement de la quinine qu'on utilise pour le traitement des cas sévères de paludisme. Le peu de médicaments que l'ONG Malteser disponibilise à prix réduit n'arrive pas à couvrir tous les besoins de la région. Vu l'urgence, les professionnels de la santé de ces territoires comptent déjà lancer une campagne de sensibilisation de lutte contre le paludisme dans toutes les zones rurales du territoire. Entre-temps, trop de familles continuent à enterrer leurs morts. Mahagui, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
Une épidémie animale est en train de décimer les porcs depuis plus de 2 mois dans les environs de Lissala, district de la Mongala. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Plusieurs éleveurs ont perdu une vingtaine de bêtes. Les autorités locales ont dépêché une équipe de vétérinaires pour se rendre compte de la situation. Mais ils ne sont pas encore arrivés à déterminer la maladie, faute d'examen de laboratoire approprié. Ghislaine Ntobo.
Cette maladie se manifeste par les gonflements au niveau du cou. L'animal perd l'appétit, il maigrit, en même temps il fait une forte fièvre. Les secteurs les plus touchés sont Ngombe Doko, Ngombe Bombangi et Mongala Mutima dans le territoire de Lissala. Le territoire de Bongandanga n'est pas non plus épargné. Dans ce coin où l'élevage du porc est le plus pratiqué, beaucoup d'éleveurs pleurent leurs bêtes. En ce qui concerne la détection de la maladie, les idées sont partagées. Certains supposent qu'il s'agit de la fièvre charbonneuse qui se transmet à l'homme, d'autres pensent que c'est le rouget des porcs. L'appellement également du côté des vétérinaires dépêchés sur le terrain. Mais jusque-là, les échantillons du sang ne sont pas prélevés pour être envoyés à Kinshasa. La situation est tellement grave que si l'on ne fait pas attention, tous les cochons de la Mongala risquent de disparaître. Ce qui est curieux, une fois la maladie constatée chez la bête, les propriétaires se précipitent à la vendre à un prix un peu plus bas, question de gagner un peu d'argent. Soit malgré la sensibilisation de l'OMS Lissala sur la consommation de la viande de l'animal malade. Lissala, Justine Tobo, Radio Okapi.
L'eau, une denrée rare à l'université de Kinshasa. Les étudiants habitant le campus dénoncent cette situation. Ils sont parfois obligés d'être au robinet collectif, parfois à 3h du matin, pour arriver à temps en cours. À cela s'ajoute l'état dégradé des installations sanitaires. Les étudiants interpellent les autorités académiques, mais aussi la régie des eaux, pour qu'une solution soit trouvée. Didas Namujimbo s'est rendu sur place.
Tôt le matin, une centaine d'étudiantes font la file au seul robinet public du Home des filles. Cela parce que l'eau n'arrive presque plus dans leur chambre à l'étage et c'est seulement entre 4 et 6 heures du matin que l'eau coule au robinet public et rarement la mi-journée à 11 heures. Une situation qui non seulement inquiète les étudiants mais aussi perturbe leur horaire des cours. Nana Okele est étudiante en deuxième licence.
Nous sommes obligés de nous réveiller à 4 heures parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de filles au Home. Il faut faire aussi des tours. Nous risquons même d'arriver au cours en retard. Oui, aussi des problèmes parce qu'une fille qui est dans sa période de menstrues, elle ne sait pas aussi aller au cours ni se déplacer parce qu'elle ne sait pas se laver, elle ne peut pas se déplacer comme ça. Nous interpellons tout d'abord nos autorités ici. Parce que si les autorités contrôlaient, savaient tout ce qui s'est passé sur le home, ils ont aussi constaté qu'il y a un problème pendant la saison sèche. Et nous interpellons aussi la régie des eaux, parce que c'est elle qui nous envoie de l'eau, c'est elle qui est mieux placée.
Les autorités académiques de l'université de Kinshasa disent être au courant de ces manques d'eau dans les campus. Pour le professeur Loutou Tala, recteur de l'UNIKIN, des pourparlers avec la régie des eaux sont en cours depuis déjà un temps pour trouver une issue à cette situation. Information confirmée aussi par les responsables de la régie des distributions d'eau à Kinshasa. Mais en attendant, les étudiants internes de l'UNIKIN continue à se plaindre et exige une solution rapide au problème.
Direction province orientale, à Kisangani, le service d'assistance et d'encadrement des petites mines et petites mines et artisanats miniers demande aux exploitants miniers artisanaux de la province de se regrouper en coopérative. La SAESCAM estime que cela leur permettra de bénéficier de l'encadrement technique et financier de la compagnie sud-africaine Mark Rich. Pour ce service, ce projet pourrait valoriser le secteur minier. Godlivo Mondo.
Ce projet amorcé depuis le mois de mars par les SAESCAM, un service technique qui relève du ministère des Mines, est maintenant dans sa deuxième phase. Après l'étude de faisabilité des coopératives, l'heure est maintenant à l'évaluation de la situation des exploitations minières artisanales dans quatre zones minières, Ubundu, Banalia, Opala et Bafoissende. Les exploitants miniers artisanaux de ces régions seront regroupés en coopératives pour bénéficier des microcrédits. Pour ces services de l'État, cela devrait permettre un meilleur encadrement des acteurs qui œuvrent dans ces domaines. Ceci s'adonne souvent à des exploitations anarchiques qui ont plusieurs conséquences. La déperdition scolaire, la débauche ainsi que la destruction de l'environnement. Selon Deo Gracias Mungo, chef de département administratif et contentieux au SAESCAM, le représentant de la compagnie sud-africaine Marc Ruch, qui souhaite investir dans ces coopératives, devrait être à Kisangani à la fin du mois. Le projet pourrait s'étendre à d'autres districts de la province orientale. Kisangani, Livre Mondo Radio Okapi.
Cas de torture et de viol signalé à la prison centrale de Lodja dans le district du Sankuru. Une prisonnière se trouve dans le coma à l'hôpital suite aux tortures des gardiens. Les ONG de droits de l'homme dénoncent ces pratiques dégradantes. Julien Ga, coordonnateur de l'ONG Sonnette de Secours, joint au téléphone par Basile Bakumbani.
Il y a une étudiante qui était condamnée par un jugement qui a été rendu par le tribunal de grande instance le 17 mai dernier pour incendie volontaire et association de malfaiteurs. Et elle a été transférée vers la prison centrale de Lodja avant-hier. Arrivée à 19h, les policiers, gardes de la prison, vont venir la demander de sortir de sa cellule pour venir là où ils étaient. La fille a refusé de se déplacer et ils ont commencé à taper sur elle et la tirer de force. De temps en temps, elle entre à coma, elle ne parle pas. Les signes évidents d'un viol sont là. Il y a les sous-vêtements, son soutien-gorge qui ont des traces. Les présumés auteurs sont déjà au niveau de l'auditorat militaire. La fille, elle, suit ses soins à l'hôpital.
De son côté, l'auditeur militaire de Lodja confirme que 3 policiers et 1 militaire sont arrêtés pour ce dossier et l'instruction du dossier se poursuit. Le président Joseph Kabila se marie bientôt. Il épousera Mademoiselle Olive Lembedisita. C'est l'ambassadeur Théodore Mougalou qui a donné officiellement cette nouvelle ce jeudi à la presse en sa qualité de chef de la maison civile du chef de l'État. Reste à savoir le lieu et la date de cet événement qui n'ont pas été communiqués. Ce mariage sera célébré par le cardinal Etchou de l'Église catholique et Monseigneur Marini Bodo de l'Église protestante dans un culte œcuménique. Mais avant cela, le couple devra se présenter devant l'officier de l'état civil de la commune de la Gombe. Ouverture hier jeudi matin à Brazzaville du 7e Forum pharmaceutique international. Plus de 500 chercheurs, biologistes, pharmaciens et médecins venus du monde entier vont se plancher sur les pathologies émergentes et résurgentes du continent. À l'ordre du jour de ce forum figure notamment l'accès au traitement du sida et la vente publique des produits pharmaceutiques. Arsène Sévrin.
D'après les allocutions prononcées à l'ouverture, notamment celle du Premier ministre du Congo-Brazzaville, Isidore Mvouba, les participants feront le point des pathologies émergentes qui menacent l'humanité, notamment l'Afrique. Le sida est naturellement en tête. Les pharmaciens du monde feront le plaidoyer pour l'accès facile aux médicaments et la baisse des prix du traitement. La tuberculose constitue également l'une des inquiétudes de ce forum. Un nouveau traitement va d'ailleurs être présenté à Brazzaville au cours de ce forum. Un mot sera enfin dit sur les médicaments de la rue. Chaque pays fera le point de la campagne menée contre les vendeurs illicites des médicaments. Ce 7e forum prend fin samedi prochain. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Cap.
Le sommet des États sahéliens sahariens CENSAD a clôturé jeudi soir ses travaux à Tripoli par un appel aux rebelles soudanais récalcitrants à signer l'accord de paix au Darfour et par l'annonce de la création d'une commission pour aider à rétablir la paix en Somalie. Le sommet, qui devait initialement clôturer ses travaux vendredi, a salué la signature du traité de paix le 5 mai à Abuja entre Khartoum et le principal mouvement rebelle du Darfour, le mouvement de libération du Soudan, et a appelé les autres groupes rebelles à y adhérer. 7h15 à Kinshasa, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Okay.